Cécile Barra.
Bonjour, en ce début d'année, nous vous proposons une bouffée d'optimisme. Comme le déplorait Richelieu, les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer qu'ils ont ignorée. C'est vrai pour tous les pays côtiers, plus particulièrement pour la France, qui peut fièrement revendiquer de disposer du deuxième espace maritime mondial. La triple crise écologique, économique et financière que nous traversons est une chance, la possibilité d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de l'humanité. Encore faut-il oser larguer les amarres pour prendre le large. C'est en tout cas la thèse de notre invité.
C'est pas du vent.
Bonjour Christian Buchet.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche de la mer de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes membre de l'Académie marine et vous venez de publier Cap sur l'avenir à contre-courant, les raisons d'être optimiste. Alors ça, c'est vrai que c'est à contre-courant aujourd'hui aux éditions du Moment. Alors dans ce livre, vous nous expliquez que nous sommes entrés dans le troisième temps de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Hein, mais ce serait pour vous le temps du Pacifique.
Oui, alors vous disiez que nous étions en crise. Non, on n'est pas en crise. C'est-à-dire qu'on est en crise si on se situe dans le deuxième temps de l'histoire, ou que certains appellent la contemporaine. On est, de mon point de vue, dans un troisième temps de l'histoire. Et de ce point de vue, nous sommes de ce fait non plus en crise, si on regarde avec ces yeux-là, mais dans une formidable période de mutation. Alors, c'est quoi ces temps de l'histoire? Oh, si vous voulez, l'université distingue quatre périodes de façon générale. L'Antiquité, le Moyen-Âge, et puis troisième période, c'est la moderne, c'est-à-dire 16, 17, 18e siècle. Et puis après la Révolution chez nous, 1789, c'est la contemporaine. En fait, si on regarde le temps de l'histoire, parce que cette découpe n'est pas valable ni pour l'Asie, ni pour la Polynésie. On s'en rend bien compte que c'est très occidentalo-centré, et on a bien tort. La mer peut, parce qu'elle nous unit tous, nous donner un autre timing, un autre tempo de l'histoire. On pourrait dire qu'il y a eu d'abord le temps des Méditerranées, de la Méditerranée qui porte son nom, la Mare Nostrum des Européens, de l'Afrique, mais également des Méditerranées asiatiques qu'on a trop tendance à oublier. Donc des espaces où on travaillait autour de la mer, hein, les uns et les autres, mais de manière totalement décloisonnée. Et puis, ça correspondrait, si vous voulez, à l'Antiquité et puis à la période médiévale. Deuxième temps de l'histoire, c'est ce qui se passe à la suite d'un Big Bang géographique, 1488, Bartholomé Diaz, double cap de Bonne-Espérance, les Européens vont pouvoir aller directement en Asie, chercher les épices et les parfums. Et donc tout d'un coup, l'Europe va aller chercher directement ses épices. Quatre ans après, 1492, c'est bien sûr la découverte de l'Amérique, et nous rentrons dans le temps de l'Atlantique. C'est-à-dire, on va chercher les épices et les parfums par voie atlantique, en doublant le cap de Bonne-Espérance, le sud de l'Afrique, et bien sûr l'Amérique.
Et ce temps correspond à la deuxième période de l'histoire que vous appelez le temps de l'Atlantique.
Le temps de l'Atlantique qui durait jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle encore quasiment tous les jours dans les médias de l'Alliance Atlantique. Donc, vous voyez, on est encore dedans. Sauf que de mon point de vue, et je suis à la base historien, nous sommes sortis de cette deuxième phase depuis une dizaine d'années. Nous sommes, d'un point de vue, rentrés dans un troisième temps de l'histoire, qui est le temps du Pacifique. Alors, ça ne veut pas dire que l'Occident est sur un banc de touche du grand stade mondial. Non, pas du tout, au contraire. On verra que l'Occident a plus de chances que jamais. Mais c'est dire que nous vivons, nous, notre génération, au sens large, une période extraordinaire, on le dit pas assez, telle qu'on n'en a pas connue depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis 700 ans. Regardez comme nous sommes bien nés.
Alors, le temps du Pacifique, ça s'illustre de façon très concrète. Par exemple, aujourd'hui, les 6 premiers ports mondiaux sont asiatiques.
Les 6 premiers ports mondiaux sont asiatiques. Je vous le mets en mille que dans 2 ans, il y aura dans les 10 premiers ports, il y aura quasiment que des asiatiques. Le premier port non asiatique, c'est le port de Rotterdam. Bon, on dit souvent Rotterdam, c'est le troisième port mondial. Non, pas sous l'angle des portes-conteneurs, justement. Et c'est tout le commerce maritime se développe par le conteneur. Il n'est qu'au 7e rang. Donc, vous voyez à quel point tout l'épicentre de l'économie mondiale est l'Asie, parce qu'il y a une forte croissance démographique. Mais encore une fois, l'Europe, l'Occident a de formidables opportunités. On va voir. Nous ne serons pas sur le banc de touche. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles routes maritimes.
On va y revenir, mais restons tout d'abord sur ce temps du Pacifique. La Chine, finalement, s'ouvre enfin sur la mer. Et comme vous l'écrivez dans votre livre, si elle l'avait fait plus tôt, ça aurait pu changer le cours de l'histoire.
Oh bah, totalement. Imaginez, à l'époque de Louis XIV, en France, on est 20 millions. Les Chinois, à la même époque, sont 250 millions. Les Chinois ont inventé l'imprimerie au XIIe siècle, la poudre noire, le gouvernail, la boussole. Donc c'est eux qui, dès le XIIe, XIIIe siècle, auraient dû venir nous visiter. Et quels moyens, en plus démographiques. Donc l'histoire aurait été totalement inversée. Ils l'ont pas fait. Pourquoi? Non pas parce qu'ils n'avaient pas les capacités techniques, mais à cause d'un blocage mental derrière tout ça. Ce qui fait qu'on voit l'avenir avec optimisme ou au contraire qu'on a la nez dans le guidon. C'est pas une question de capacité, c'est ce que j'essaye de montrer dans mon ouvrage Cap sur l'avenir. On a tout, sauf qu'on n'a pas l'état d'esprit permettant d'y aller. On est convaincu qu'on va dans le mur, et vu qu'on est convaincu qu'on va dans le mur, on reste bien ancré, le nez dans le guidon, on ne lève pas la tête parce qu'on n'est pas sadomaso et qu'on est persuadé que c'est un mur, mais en faisant ça, on édifie effectivement un mur brique par brique. Et si vous regardez les choses avec courage, lucidité, pas de manière utopiste, vous voyez que l'avenir, mais il est beau. Le tout, c'est de regarder le verre par rapport à un même état, on est tous d'accord sur la situation, par rapport à un même état, c'est de regarder le verre à moitié plein et cesser de gémir en regardant le verre à moitié vide. Cap sur l'avenir, nous vivons une période extraordinaire, encore une fois, où tous les possibles sont ouverts, jamais une période ne semble aussi prometteuse.
Alors allons-y. Donc ça demande en effet de regarder vers le large et d'avoir un peu de recul. Alors vous le disiez, quand on voit la Chine qui se prépare comme ça à cette révolution maritime, on se dit, et alors est-ce que l'Occident va rester sur le banc de touche? Et vous dites non, notamment parce qu'il y a les passages maritimes du Nord qui vont permettre à la vieille Europe de participer à ce temps du Pacifique. Parce que, alors ça c'est quand même pas une très bonne nouvelle, hein, on va pas se réjouir de la fonte des glaces de l'Arctique.
Non, il s'agit pas de se réjouir de ça, il s'agit pas de se voiler la face en faisant comme si les glaces étaient là, non plus. Il s'agit de faire preuve de réalisme en sachant que ça va générer de nouveaux développements économiques qui permettront très fortement de lutter contre tous les dérèglements. Il faut cesser d'opposer développement économique et écologie. On ne peut pas envisager dans le monde d'aujourd'hui une croissance zéro comme certains réveillent à 20 ans. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes dans une phase de croissance démographique sans précédent. Depuis octobre 2013, on n'est que 7 milliards sur la planète. En 2025, on sera 8 milliards. En 2050, on devrait culminer, après ça devrait baisser un petit peu. En 2050, on va être 9 milliards. Après, on considère qu'on sera 8 milliards 7, 8 milliards 3. Pas de panique, la planète peut nourrir 12 milliards d'individus. Alors pas de la même manière que l'agriculture fonctionne aujourd'hui, je rentre pas dans le détail.
C'est un autre sujet, on en parle souvent dans cette émission.
C'est un autre sujet, mais il n'y aura pas à raconter. Au niveau des terres consacrées à l'élevage direct ou à l'alimentation directe, c'est un bon sujet aussi. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de voir que nous avons un potentiel à condition de regarder l'avenir. C'est vraiment une question de regard. Et ce qui est frappant, c'est que la France est un pays, probablement le pays européen le mieux placé. Et c'est le pays qui a le moins confiance dans son avenir, où les sondages le montrent, nous avons un degré de sinistrose, mais alors tout à fait étonnant. Et c'est ça le paradoxe de la France. On a tout pour réussir, vous savez, on est exactement à cette période de la Renaissance. La Renaissance, c'était quoi il y a 700 ans? C'était énorme, c'était trois choses. Énormément de découvertes scientifiques et techniques. On fait infiniment plus, c'est plus concentré depuis 10 ans. Deuxième pilier, c'était de nouvelles routes maritimes, je viens de les dire, 1488-1492. Aujourd'hui, avec les passages dont nous allons parler, ça va totalement changer pour le meilleur les choses.
Alors, faut expliquer quand même aux auditeurs, parce qu'on parle de passages, mais donc le principe, c'est que l'Arctique fond et que donc ça ouvre des routes qui étaient inaccessibles jusque-là.
C'est déjà ouvert.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut déjà passer par l'ouest ou par l'est, c'est-à-dire le long du Canada ou le long de la Russie pour contourner l'Arctique.
Absolument. Donc c'est possible, si vous voulez, aujourd'hui, sans brise-glace, en gros, 35 à 60 jours, dans 10 ans, dans 120 à 130 jours. Ou toute l'année, déjà, avec un brise-glace. Alors, il s'agit pas de faire sauter la glace. Et on peut que déplorer le réchauffement climatique qui pose bien de problèmes. Mais c'est une réalité. Et cette réalité doit nous servir pour lutter, justement, contre les dérèglements climatiques. C'est quoi? Quel est l'avantage? Alors, il y a deux passages possibles, effectivement, vous l'avez dit. Ou vous longez la côte canadienne, c'est-à-dire nord-américaine, et c'est le passage du nord-ouest. Ou la côte de la Sibérie, c'est le passage du nord-est. Quel est l'avantage? Encore une fois, je déplore le réchauffement climatique, nous ne trompons pas, mais ça sera l'occasion d'une nouvelle croissance permettant de lutter. On le disait, vu la croissance démographique, on ne peut pas imaginer, si vous voulez, qu'il n'y ait pas de croissance économique. Donc le mieux, c'est comment juguler à partir des flux pour que les choses soient plus simples. Ça veut dire quoi? Quand vous allez aujourd'hui d'Europe en Asie, vous avez ou 23 000 km si vous passez par le canal de Panama, ou 21 000 km si vous passez par le canal de Suez, ou que 15 700 km si vous prenez l'une de ces deux voies. C'est donc 30% de kilomètres en moins, ce qui est pas négligeable, 40% gain de temps parce que vous n'avez pas de formalité administrative pour emprunter, débouquer un canal, aucun problème de tirant d'eau, bien évidemment, aucun problème, si vous voulez, en principe, en termes de sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas simplement une question de route, ce que les gens n'intègrent pas, c'est qu'aujourd'hui, vous avez trois zones dans la planète qui sont non exploité, j'aime pas le mot exploité, mais qui ne donne pas le potentiel qu'il pourrait donner pour, encore une fois, accepter et permettre aux 2,4 milliards de personnes en plus d'ici 2050 de vivre, c'est le Brésil, l'intérieur du Brésil, c'est le nord du Canada et c'est la Sibérie. Pourquoi le nord du Canada et la Sibérie? Tout simplement parce qu'il faisait froid, parce que ce sont deux cul-de-sac. Très difficile de relier à partir du nord du Canada à la Sibérie l'intérieur des terres. Or, demain, ce nord du Canada et cette Sibérie vont se trouver demain, à la suite de ce qu'on vient de dire, sur les deux autoroutes maritimes, les deux artères maritimes les plus fréquentées. C'est-à-dire que c'est pas simplement un rapprochement entre l'Europe et l'Asie, mais ça va permettre le désenclavement des terres les plus riches où vous avez tout ce dont nous avons besoin. Et quand vous regardez, c'est passionnant, quels sont les pays qui s'entourent de l'Arctique? Si vous considérez que la Russie est un pays occidental, il n'y a que des occidentaux. C'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle Méditerranée qui s'appelle l'Arctique, avec des pays occidentaux qui, a priori, vont vivre en paix, qui vont détenir toutes les matières premières. On rêve les yeux éveillés. L'Occident va être à la tête de l'ensemble des matières premières dont l'Asie aura besoin. Nous serons aux abords de l'Asie sans être pris dans les conflits asiatiques.
On vous avait L'avenir promis... est beau. On vous avait promis de l'optimisme.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Christian Buchet qui nous fait partager son optimisme en nous incitant à tourner nos regards vers la mer qui serait la clé pour résoudre la période de mutation que nous traversons. Et la France a une sérieuse carte à jouer dans cette perspective puisqu'elle abrite le deuxième espace maritime mondial. Et notre chance pour la France, en tout cas Christian Buchet, c'est que cet espace maritime est extrêmement bien réparti.
C'est le mieux réparti. Bon, deuxième puissance maritime, vous l'avez dit, le premier étant les États-Unis. Le troisième, loin derrière d'ailleurs la France talonnant les États-Unis qui est numéro un, c'est l'Australie. Et bien sûr, États-Unis et Australie ont cet espace maritime à cause de la taille de leur métropole. Nous, c'est grâce à l'outre-mer pour 96%. Ça veut dire que la France est partout, sauf en Arctique. Mais autrement, elle est partout. C'est une chance pour la France et c'est grâce à la France une chance pour l'Europe.
Alors c'est 11 millions de kilomètres carrés.
Un peu plus
quand même.
De 11 millions de kilomètres carrés. Ça pourra même progresser un petit peu parce que vous savez, c'est compliqué. C'est l'application des accords dits de Montego Bay qui, pour la France, sont valables depuis 1994. Et on peut aller, c'est-à-dire que pour toutes les mers ouvertes ou l'océan en l'occurrence, nous avons droit à 200 000 marins. Donc le moins de bout de terre français, on peut faire un périmètre avec 200 000 marins, c'est-à-dire 372 kilomètres de rayon. Ça nous fait effectivement un peu plus de 11 millions de kilomètres carrés, mais on peut aller, d'après l'accord de Montego Bay, jusqu'à 350 000 marins si vous pouvez prouver que le plateau continental continue. C'est pour ça que les Américains n'ont toujours pas signé, parce qu'avant de signer, est-ce que vous avez un délai pour faire valoir vos droits, ils veulent ausculter le fond des mers, parce que eux, ils veulent partout, non pas 200 000, mais 300 000 marins, et ils ont bien raison.
Voilà, on comprend bien donc que l'enjeu marin est de taille. On a parlé tout à l'heure de l'Arctique, c'est vrai qu'il y a des vrais conflits diplomatiques actuellement en cours. Alors la France, dans ses 11 millions de kilomètres carrés, abrite 10% de la biodiversité mondiale connue à ce jour, hein, parce qu'on en connaît finalement encore peu. 13 000 espèces endémiques tout de même, et la Nouvelle-Calédonie, qui est située donc au nord de l'Australie, fait partie de ces joyaux avec un potentiel d'exploitation durable incroyable. Comme nous l'explique Fabrice Collin, il est l'ancien directeur de l'IRD, l'Institut pour la Recherche et le développement de Nouvelle-Calédonie.
Et La biodiversité, c'est un champ absolument infini. Et évidemment, d'autant plus que la plus grande des biodiversités qui est méconnue aujourd'hui, c'est celle que l'on ne voit pas. On parlait des champignons, des micro-champignons qu'il y a dans les sols, mais il y en a aussi dans les eaux, dans les lagons, les bactéries, les micro-algues. Évidemment, là, je suis sûr qu'on va avoir des surprises, parce que je m'attends à ce qu'on trouve une endémicité très très forte aussi.
C'est-à-dire des micro-algues qui ne poussent que là.
Voilà. Parce qu'elles sont aussi adaptées à leur contexte donc, de composition chimique de l'eau sur des sols tout à fait particuliers, puisque le lagon, ben, il est en grande partie aussi sur des sols latéritiques. Donc on doit s'attendre à découvrir là, dans les 10 prochaines années à la fois des bactéries et à la fois des micro-algues qui auront des spécificités uniques au monde. Alors on ne doit pas se priver de ce qui existe ailleurs pour déjà faire ce que l'on sait faire ici, parce que la Nouvelle-Calédonie est aussi un terrain... Au niveau lagon, il y a des espaces sur lesquels on peut faire de la culture de micro-algues ou de macro-algues. Donc on peut très très bien faire ce type de culture parce que ce sont des cultures qui préservent l'environnement. Comme on l'a dit, les algues, les micro-algues et les macro-algues se nourrissent de carbone. Et là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus efficace que la forêt pour la séquestration du carbone. C'est leur nourriture essentielle. Et puis après, il y a donc l'activité de la photosynthèse. Ici, on ne demande pas de soleil. Ce sont des plantes sans racines. Elles ne dégradent pas les milieux. Elles ne rentrent pas en compétition avec des sols qui sont cultivables. Donc moi, je crois beaucoup à cette thématique-là dans le futur.
Et nous sommes de plus en plus nombreux à travers le monde à y croire aussi. Et pourtant, Christian Bucher, on ne connaît que très peu de choses finalement de cette microbiologie marine.
On ne connaît pas grand-chose. Vous savez, il y a 15 ans, on considérait qu'on connaissait 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, avec le développement de la métagénomique qui consiste, vous savez, à faire le séquençage de gènes non pas isolés mais croisés, les biologistes marins s'accordent à penser qu'on ne connaît pas plus de 1% de la microbiologie marine. Alors c'est peut-être 2%,
c'est peut-être 0,5%. Plus on en découvre, moins on en connaît.
On connaît quasiment rien, mais c'est un formidable vecteur d'espoir, et notamment sur le plan de la santé. C'est pas un rêve utopiste, si vous voulez, c'est déjà une réalité. Et on va avoir en 2014-2015 6 anticancéreux qui vont sortir sur le marché. Ils émanent tous de champignons marins. La dernière classe d'antibiotiques, la céphalosporine qu'on est nombreux à utiliser en ce moment, émane du milieu marin. Le premier traitement de lutte contre le sida, l'AZT, émane du hareng. De plus en plus, on a recours, vous savez, dans tous nos petits bobos, nos problèmes de défense immunitaire, etc. On a recours à la mer parce que c'est là où il y a la plus grande biodiversité. La biodiversité marine, qu'on ne connaît pas, donc, on s'accorde à penser que c'est 80% de la biodiversité terrestre. Vous imaginez, il y a un potentiel absolument colossal, d'où la nécessité de ne pas polluer la mer et pas de faire n'importe quoi. C'est pas pour la mer, c'est pour nous. Ça serait en quelque sorte tuer notre potentiel de développement. Mais pourquoi est-ce qu'on peut attendre tout cela de la mer? Pour une raison très simple, que beaucoup d'auditeurs probablement ignorent encore, et pourtant c'est établi, on sait aujourd'hui que nous émanons, nous descendons du milieu marin. On a découvert au fond, à 3 km à peu près de profondeur, dans les fameuses sources hydrothermales, à partir des années 1977-79, de la vie, non pas comme nous, humains, plantes ou animaux, par photosynthèse, c'est-à-dire par apport de la lumière solaire, mais par chimiosynthèse, parce que on n'a pas que des plantes, mais des animaux vivants que l'on voit évoluer, qui vivent dans le noir complet, on a 3 km sous l'eau, dans un milieu acide, parce qu'on est proche des volcans, parfois à plus de 120 degrés, avec une pression par millimètre carré absolument dément, et bien on s'est rendu compte que c'est exactement les conditions d'apparition de la vie sur Terre. On sait toujours pas exactitude de quel singe on descend ou si le singe descend de nous, parce qu'il y a des débats. Mais ce qui est certain, c'est que le singe, comme nous descendons tous du milieu marin, c'est dire que nous avons là les eaux, d'où la cosmétologie. Aujourd'hui, vous avez une révolution en cosmétologie. On prend de l'eau physio-marine, je pense à un groupe notamment breton, qui est dedans. Pourquoi? Parce que ça a plus d'effet pour revivifier les poissons desséchés que nous sommes.
Voilà, on vient de la mer et aujourd'hui, on la redécouvre. Et
il serait temps qu'on ait mis la surface de la Lune et de Mars, vous imaginez.
Voilà, donc redécouvrons la mer. Elle est pleine de ressources à exploiter de façon durable, évidemment. Et il y en a beaucoup d'autres, on en parle dans quelques minutes, juste après le flash d'info. Restez avec nous, à tout de suite.